Ok, bon, ben effectivement, comme ça vient d'être dit, je vais essayer de vous parler un peu du mix électrique, enfin de la façon de réaliser la production pour satisfaire la consommation, et puis de parler un peu de transition énergétique, puisque c'est quand même un mot à la mode. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un petit préliminaire. Pour vous dire que effectivement j'ai été fait toute ma carrière à EDF, surtout dans l'ingénierie d'ailleurs, pas tellement dans la production, encore qu'un petit peu, mais pas du tout dans le commerce et dans la stratégie générale. Donc c'est un sujet auquel je me suis. Tiens, pourquoi ça a sauté,
Non, non,
hein?
non, c'est moi qui
Ah,
fais.
d'accord. C'est un sujet auquel je me suis intéressé beaucoup plus comme finalement un élément de contexte autour du nucléaire dont je m'occupais, plus que comme sujet principal. Mais ça fait rien, c'est quand même très connecté à nos sujets nucléaires habituels. Et puis, deuxième préambule, j'ai quitté EDF bah, depuis maintenant 3 ans. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ma vision un peu personnelle des choses, même si c'est forcément influencé par tout le temps que j'ai passé dans la maison EDF, mais je ne suis en aucun cas le porte-parole d'EDF, aujourd'hui en tout cas. Et donc, il y a des choses qui seront peut-être différentes de ce que EDF présenterait ou souhaiterait ou pourrait dire. Ceci étant dit, si on.
Voilà, j'arrête de perturber. Voilà.
Voilà. Ok, alors on va commencer, avant de parler de transition, je vais peut-être remettre quelques éléments de contexte un petit peu général pour que tout ça soit remis en perspective. Si ça veut bien marcher, il faut appuyer sur les boutons, voilà. Donc juste quelques éléments de contexte. La population mondiale, on va se placer d'abord à l'échelle un peu mondiale, la population, elle est censée augmenter de façon quand même très significative. On doit être près de 7 milliards d'humains actuellement sur la planète. En 2030, on affiche de l'ordre de 8 milliards. En 2050, les chiffres varient, mais ça pourrait être de l'ordre de 10 milliards ou quelque chose comme ça. Alors, ça pose évidemment des tas de questions, d'enjeux derrière tout ça, sur lesquels on va revenir. Mais il y en a un en particulier, c'est que on note en parallèle à cet accroissement de la population aussi une augmentation de la consommation unitaire d'énergie par personne dans le monde. Sachant qu'on part d'une situation où il y a des disparités extrêmement fortes entre les régions. Un Américain, ça ne consomme pas la même chose qu'un Éthiopien ou un Vietnamien. Donc là, il y a aussi une tendance à l'augmentation par habitant, qui est parfaitement légitime. L'énergie, c'est le cœur de plein de questions. De développement, de bien-être, de santé, etc. On va y revenir. Mais donc, la croissance, elle est non seulement légitime, mais elle est à peu près inéluctable, sachant que l'énergie, finalement, ça remplace les humains, ça remplace les esclaves d'une certaine façon d'autrefois. Et donc, c'est quand même quelque chose où il vaudrait mieux ne pas revenir dans l'autre sens. Alors, tout ça se traduit par des évolutions de la consommation mondiale, cette fois-ci, totale, qui est croissante doublement, à deux titres. On était à 12 milliards de tonnes équivalent pétrole. On pourrait passer à 16, 17 envers 2030. Et puis, au-delà, on ne sait pas trop, mais ça pourrait être quand même significativement. Plus que 22 milliards, c'est-à-dire que on double, au moins encore. Alors tout ça pose des tas de questions. Les enjeux et les implications sont évidemment multiples, depuis les questions d'alimentation, d'accès à l'eau, de santé, de bien-être social plus généralement, liés à la quantité de travail qui est disponible, hein, finalement, et donc la fabrication de biens. Ou même l'aménagement enfin des territoires, etc. Ça pose des questions de climat. Et finalement, au travers de tout ça, l'énergie est vraiment une question centrale qui vient toucher à tous les à tous ces aspects-là. Donc c'est tout à fait important d'avoir ça, ces éléments de contexte en tête. Et en particulier, donc, ça a un impact sur le climat via le CO2. Alors, avant de passer au climat, juste un petit rappel du mix énergétique actuel dans le monde. Alors, c'est le mix énergétique en énergie primaire. On ne parle pas d'électricité, là, pour l'instant. Hein, c'est sur l'ensemble. Donc, l'ensemble des usages. Vous voyez, alors, si je ne me trompe pas de bouton, vous voyez ici, à l'échelle mondiale, les fossiles qui représentent tout ça. C'est quand même la part très largement dominante de toute la consommation d'énergie mondiale. C'est plus des trois quarts. Par opposition, si on peut dire, on a ici la France, où on voit que les fossiles, bah, finalement, c'est un peu moins de la moitié. Donc on a un paysage assez nettement différent. Et bah, vous le savez, la part d'énergie primaire fournie par le nucléaire, elle est d'un peu moins de la moitié. Et en gros, ça correspond bah, à peu de choses près à la part de l'électricité dans la consommation d'énergie en France. À l'échelle mondiale, bah, c'est beaucoup plus faible que ça. Ceci étant, si on veut se positionner un peu globalement, il faut avoir en tête que la France, c'est rien du tout à l'échelle mondiale, au plan énergétique. On représente 2%, moins de 2% du bilan énergétique mondial, encore une fois, toutes énergies confondues. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire et que ce n'est pas important de regarder tout ça. Alors, on parle de climat ensuite, et un élément caractéristique, c'est que toutes ces consommations, usages d'énergie, ça produit du CO2. Ceci étant, il n'y a pas que la consommation d'énergie à proprement parler, mais ça représente quand même l'essentiel. Ici, vous avez un petit graphique, je me trompe toujours de bouton, un petit graphique qui vous montre quand même que donc charbon, pétrole et gaz, c'est quand même une très grande partie de la production de CO2 anthropique, hein, faite par l'activité humaine. Mais que la déforestation est aussi une source significative, hein, par ailleurs, même si elle diminue un petit peu. Et puis, il y a un secteur qui est gros consommateur aussi d'énergie, c'est les cimenteries, la fabrication du ciment et du béton, qui produisent pas mal de CO2. Donc tout ça, on voit aussi sur ce graphique, surtout que, évidemment, il s'est passé, avant il n'y en avait quasiment pas, mais il y a un accroissement très sensible depuis le milieu du siècle dernier, à peu près. Et on va voir comment ça se corrèle avec les évolutions climatiques. Juste un petit rappel, pour avoir des ordres de grandeur. Hein, il y a donc 20 000 ans, on était en période glaciaire, les températures étaient de l'ordre de 5 degrés plus froides qu'aujourd'hui. Mais avec 5 degrés, on avait évidemment, vous le voyez là, encore une fois, je me trompe, des calottes glaciaires qui couvraient à peu près toute la Russie, une grande partie de l'Europe, etc. Les océans étaient 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est des évolutions un peu du même ordre de grandeur, même si on ne parle pas de 5 degrés, mais de quelques degrés seulement, des évolutions du même ordre de grandeur sur des durées assez courtes, la centaine d'années, sauf peut-être pour l'évolution du niveau des mers, qui, lui, varie beaucoup plus lentement pour des questions d'inertie d'ensemble du système. C'est donc quand même des choses tout à fait importantes. Et puis, alors le climat, il varie pour plein de raisons. Il y en a quelques-unes qui sont citées là. Hein, ça va depuis l'orbite de la Terre qui varie, l'activité volcanique, l'activité solaire. Toutes causes qui ont été parfois avancées par les climato-sceptiques, comme on dit, pour dire que c'était pas le CO2 produit par les hommes qui était la cause du réchauffement. Mais en réalité, quand on regarde bien, en termes de corrélation justement avec ce qu'on voyait tout à l'heure, et les concentrations de CO2, on voit bien que toutes les autres causes n'ont pas vraiment de principe de corrélation, de fond de corrélation, et que c'est bien l'activité humaine qui est la cause de ces évolutions climatiques, et donc la cause des conséquences qui pourraient se produire, notamment en termes d'élévation du niveau des eaux, etc. Alors, le niveau des eaux, justement, ce qu'on peut constater, c'est que on n'est pas dans les ordres de grandeur que j'évoquais tout à l'heure, de 120 mètres de différence. On est plutôt sur l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres, voire du mètre, sur une période d'une centaine d'années. Si on va au-delà, ça changerait sans doute beaucoup plus. Mais même à l'échelle de cette centaine d'années, d'un siècle, quelques dizaines de centimètres, ça veut dire des conséquences probablement très importantes dans des zones du monde un peu éloignées de chez nous, mais au Bangladesh, dans les deltas, les îles, à différents endroits, elles seront complètement noyées, inhabitables, impropres à toute culture, etc. Et ça veut dire probablement des migrations, voire des conflits associés à ces migrations, enfin des risques en tout cas, extrêmement importants. Donc vous voyez que les enjeux derrière ça sont tout à fait importants, et il est majeur de ne pas se tromper et de ne pas être trop climato-sceptique, pour reprendre ce terme, sachant que finalement tout ça s'est fondé, toutes ces analyses sont fondées sur les travaux du GIEC, donc le groupe international énergie-climat, hein, je crois que c'est ça les initiales, qui travaille, c'est pas juste un groupe de gars qui discutent ensemble, c'est tout un processus scientifique d'analyse de toutes les données produites et analysées dans le monde entier, et qui en fait différentes synthèses à différents niveaux, et qui en tire un certain nombre de conclusions. Et ces conclusions, elles sont rappelées là pour l'essentiel sur la partie droite. Il y en a deux qui sont importantes pour nous. C'est que c'est quand même le CO2 qui est vraiment le principal moteur du changement climatique. C'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Contrairement à ce que certains peuvent vouloir raconter. Et que si on veut limiter le changement climatique à... alors, de l'ordre de 2 degrés, sachant que c'est déjà à peu près râpé, 1,5 comme disait la COP21, ça nécessite une diminution considérable et rapide des émissions de CO2 qui n'en prend pas vraiment le chemin à l'échelle mondiale actuellement, malgré les succès affichés des différentes COP récentes. Alors, on en déduit de ça ce qui devrait être les priorités d'action vis-à-vis du domaine énergie et de la consommation des différentes énergies. Donc ça passe, comme je disais, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc par la réduction des consommations des énergies fossiles qui sont celles qui produisent du CO2. Donc finalement, les trois principales, c'est le charbon, le pétrole et le gaz. Alors à l'échelle du monde, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur un petit peu au travers du graphique, les énergies dominantes, les secteurs producteurs, c'est la production électrique à l'échelle du monde, le secteur des transports, et puis les différents usages thermiques dans l'industrie, dans le tertiaire, dans le domestique, etc. En France, un peu par contraste avec tout ça, c'est aussi les transports et les usages thermiques, un peu comme partout. Par contre, ce n'est pas la production électrique qui est très largement décarbonée entre le nucléaire et l'hydraulique notamment, et puis les quelques autres. Et donc, si on revient à parler de transition, une transition, elle devrait s'attacher à à travailler sur les enjeux prioritaires. Et donc les changements majeurs qui devrait être inscrit au travers de toute transition énergétique, ça devrait être, enfin ça doit être, mais en fait ça devrait parce que ben, on verra que ce n'est pas toujours le cas, il devrait être ciblé sur ces secteurs, et un des critères de priorisation, peut-être pas le seul, mais ça devrait être l'efficacité en termes de réduction du CO2, et non pas des considérations, j'allais dire, idéologiques, indépendantes de ça. Ceci étant, dans le même temps, il ne faut pas oublier les autres enjeux et il faut satisfaire des besoins croissants, légitimement croissants, comme je le disais, l'accroissement du bien-être et des questions de santé de l'ensemble des populations, et puis rester aussi économiquement et socialement acceptable, supportable, sustainable, comme diraient nos amis anglais, pour que tout ça puisse être accepté et mis en œuvre. Alors, en France, les autorités, le pouvoir public, le gouvernement, a apporté une forme de réponse, enfin, ou leur réponse, vue d'eux-mêmes, en affichant une transition énergétique pour une croissance verte. C'est le titre de la loi qui a été pondue en 15. Pardon. Et j'ai essayé ici de vous faire ressortir les points un peu caractéristiques. Alors j'ai mis point fort avec un point d'interrogation parce qu'ils sont caractéristiques, mais ils ne sont pas forcément fort pertinents, enfin tous. Et donc vous avez là les grands objectifs affichés donc, dans la politique énergétique définie dans cette loi. Alors, il y en a qui me paraissent tout à fait pertinents et qui sont ciblés sur les enjeux qu'on évoquait. Le premier, réduire les émissions de gaz à effet de serre, les diviser par 4 à un horizon plus ou moins lointain, c'est effectivement parfaitement en ligne avec les enjeux tels que je viens de les évoquer. Réduire la consommation énergétique finale, par contre, surtout de 50%, c'est quand même... très contradictoire avec des enjeux de développement, d'acceptabilité sociale, etc., dès lors que l'énergie, c'est quand même finalement ce qui fait la croissance, le développement, les emplois, qui détermine la santé dans beaucoup de domaines, etc. Sachant que quand on dit réduire la consommation énergétique finale, on vise tout, là, aussi bien l'électricité que le fossile, le pétrole ou le gaz. Donc, quand on met le sous-objectif suivant, le troisième, là, qui est réduire la consommation d'énergie fossile, là, on peut dire très bien, mais c'est en partie contradictoire aussi avec le point au-dessus, si on veut maintenir un niveau global satisfaisant. Bon, ensuite, bon, augmenter les renouvelables, ok, même s'il faut faire attention. Pardon. Réduire le nucléaire à 50%, ça c'était un objectif d'ailleurs qui était complètement caché au fond d'un article tout à fait à la fin du truc, comme si on n'osait pas dire ça. C'est parfaitement contradictoire avec les objectifs, on y reviendra plus tard. Puis contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique, ok, très bien. En réalité, donc, si on essaye de regarder un petit peu globalement ce qu'il y a dans cette loi, ce qu'on peut constater, ou en tout cas c'est mon sentiment, c'est qu'elle ne ciblait pas vraiment les enjeux prioritaires, et puis en outre, elle ne ciblait pas non plus vraiment les moyens d'atteindre les vrais objectifs. Sur le secteur des transports, dans cette loi, il n'y avait pas grand-chose, de concret en tout cas. Le bâtiment, il était parfaitement ciblé, identifié comme secteur, mais par contre, c'était un fouillis de dispositions, de mesures, difficilement praticables pour l'essentiel et probablement quasi impossibles à financer. On verra après la suite. Et puis surtout, vis-à-vis de l'électricité, on voit bien que l'objectif, c'était pas du tout d'aller dans le sens des objectifs prioritaires, mais c'était plutôt de s'affranchir du nucléaire, bon, affichait des objectifs de plus ou moins tout renouvelable, mais surtout, sur le fond, réduire la part de l'électricité, alors qu'en réalité, pour satisfaire les objectifs qu'on voudrait, il faudrait augmenter cette part pour permettre des transferts des énergies fossiles vers de l'électricité, qui est un vecteur de sources de production décarbonées. Alors, après ça, ben, il y a la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été pondue récemment. Alors, ça, ce sont les chiffres clés qui sont affichés dans cette PPE. C'est un résumé très, très raccourci, parce que c'est un document qui fait quand même près de 600 pages, donc qui est extrêmement détaillé. Il y a beaucoup de considérations sur la faisabilité, l'état de départ, les intentions, etc. Mais c'est un document qui est quand même très, très complet, très, très travaillé, qui est malgré tout, de mon point de vue, une traduction un peu en trompe-l'œil des intentions, pour plusieurs raisons. On y reviendra tout à l'heure dans la suite. Mais notamment parce que y a des choses qui sont là aussi satisfaisantes, qui sont des traductions correcte des grands objectifs. Par exemple, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, la baisse de la consommation de charbon, de produits pétroliers et de gaz, mais aussi la baisse significative de la consommation finale d'énergie, encore une fois, qui n'est pas terrible pour la croissance, les emplois, etc. Et puis on trouve dedans des chiffres qui sont affichés comme étant le résultat des scénarios analysés, mais qui en fait sont probablement plutôt des hypothèses un peu arbitraires, en disant c'est ça qui va se passer, et grâce à ça on va faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on met les choses un petit peu à l'envers, donc c'est un mélange de wishful thinking et de choses analysées de façon plus fine. Donc on y reviendra un petit peu sur différents points au fur et à mesure de la suite. Alors, à partir de tous ces éléments de contexte et de cadrage, on peut essayer de regarder ce qu'on peut imaginer être le mix de production d'électricité et comment on va transitionner de l'un à l'autre. Donc la première chose, on va partir de l'existant, des constats actuels. D'abord, la consommation en France, elle est très cyclique, saisonnalisé à la fois à l'échelle de la journée, de la semaine et de l'année. Juste, donc ça c'est un petit graphique qui donne la consommation, c'était en 2012, mais ça change pas beaucoup chaque année. En rouge, vous avez les maximums pour chaque période, pour chaque jour et chaque semaine, etc. Et en bleu, c'est les minimums. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence chaque jour entre le haut et le bas, le minimum et le maximum. Et puis si on fait un petit zoom sur... Alors il se trouve que le pic là qui est choisi, c'était le pic maximal atteint en France, qui a dépassé les 100 000 mégawatts, 100 gigawatts, en janvier, non, c'était début février 2012, le 8 février, voilà. Et vous voyez quand même, entre le creux du matin et la pointe du soir, un écart de 16 000 mégawatts, l'équivalent de 16 réacteurs nucléaires de la série 1000 mégawatts. C'est quand même très important. Alors, normalement, on peut regarder aujourd'hui, le lien ne marche pas, je crois, donc il faut... On va le faire à la main. Je voulais vous montrer que ce n'est pas juste cette année-là, mais que si on regarde en temps réel ce qui se passe aujourd'hui, on a aussi une variation significative, même si on n'est pas le jour le plus pointu de l'année. Voilà, la courbe de consommation d'aujourd'hui. Ah oui, c'est pas celle d'aujourd'hui. Oui. Voilà, le 10, vous voyez, donc entre le pic 83 000 mégawatts à peu près, et puis le creux qui doit être... Qui était à 19h, oui, à peu près. Enfin, on n'y est pas encore, mais c'est ce qui est prévu. Mais on est en train de monter tout doucement vers ce... Et vous voyez au passage les courbes bleues, claires et foncées, c'est les prévisions à J-1 et à J. Et la courbe marron, c'est la consommation réelle. Vous voyez que les prévisions sont en général pas si mauvaises que ça à quelques jours près. Mais donc, on a aujourd'hui pratiquement 20 000 mégawatts entre le creux et le pic.
Ça, vous pouvez le voir chez vous.
Oui, oui. Vous allez Economix et vous avez ça tous les jours, tout le temps.
Le site...
Donc, voilà, si on peut revenir... Revenir là, donc repasser en mode voilà. Non, il faut. Ouais. Tac. Voilà. Bon, ça. On n'a pas réussi à faire marcher le lien qui normalement donnait directement accès. Alors, pour satisfaire ces consommations, on dispose, bon, vous savez tout ça par cœur, mais on dispose de différents moyens pour la production d'électricité. Donc là, j'ai rappelé les principaux, hein, le charbon, le gaz et le pétrole, tout en rappelant que... Alors, là, on est revenu à la production d'électricité à l'échelle du monde. Hein. C'est plus la consommation ou la production d'énergie primaire, hein, on est sur l'électricité. Mais le charbon représente quand même l'essentiel de la production électrique dans le monde. C'est vrai dans des grands pays comme les États-Unis, modernes, mais c'est encore plus vrai en Chine ou à nos endroits. Juste pour illustrer le propos, la Chine, en tout cas ces dernières années, construisait chaque année l'équivalent de tout le parc français en centrale à charbon. Histoire de vous donner un petit ordre de grandeur, et ce qui rappelle aussi qu'on ne pèse pas grand-chose à l'échelle du monde. Donc, le gaz ensuite, et le pétrole, donc presque, pas tout à fait les trois quarts, mais quand même l'énergie fossile pour la production d'électricité à l'échelle mondiale. Ensuite, on a le nucléaire, l'hydraulique, et puis les renouvelables, le solaire... Là, on a résumé un petit peu les caractéristiques principales de ces différentes sources, sachant que toutes ces sources ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il ne faut pas dire jeter l'anathème sur l'une ou l'autre. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Si on prend juste le charbon, ses qualités, c'est que c'est des ressources considérables. On ne risque pas d'en manquer. Que les centrales à charbon, c'est pilotable, ça marche quand on souhaite que ça marche, en dehors des périodes de maintenance. Mais par contre, évidemment, inconvénient majeur, c'est extrêmement producteur de CO2. C'est même la source qui en produit le plus par kilowattheure produit. Le pétrole, c'est un tout petit peu moins, mais c'est les mêmes ordres de grandeur en CO2. Le gaz, c'est la moitié, c'est mieux, mais c'est quand même pas encore ça. Et puis, le nucléaire, évidemment, ça produit pas de CO2. Les ressources sont moyennes ou très importantes si on passe au réacteur rapide. L'hydraulique, il a plein d'avantages, mais sa disponibilité, elle est variable selon les régions géographiques à l'échelle mondiale. Et puis, les caractéristiques du solaire et du vent, c'est que, bien qu'ils soient renouvelables, qu'ils produisent pour l'essentiel pas beaucoup de CO2, ils ne sont pas disponibles quand on veut, ils sont intermittents. Donc ça, c'est juste pour rappeler les caractéristiques, parce qu'on va revenir dessus après. Et puis vous avez donc les proportions à l'échelle mondiale de chacune des ressources en termes, là encore, de production d'électricité. Et puis vous voyez, mais vous le savez, si je puis là, le paysage français, il est un petit peu différent. On mobilise les mêmes ressources, mais évidemment, c'est aux trois quarts, même un peu plus, puisque c'est 75% production par le nucléaire. Donc ça, c'est le mix dont on parle. Ça, c'est la même chose présentée un petit peu autrement. Notre situation actuelle en France, c'est si je raisonne en capacité installée, la puissance installée qui est à peu près de 130 000 mégawatts, donc 130 gigawatts au total. Il y en a une petite moitié, c'est du nucléaire, donc en puissance installée, hein, 63 gigawatts. Il y a un peu de fossiles, 17%, il y a de l'hydraulique, et puis il y a un petit peu de solaire et d'éolien partant. Donc on a clairement une dominante nucléaire, y compris en installation, enfin en capacité installée, mais c'est quand même pas tout nucléaire. Ceci étant, la production, elle est décarbonée à 95% avec tout ça. Ce qu'on peut constater aussi au passage avec ces deux graphiques, c'est qu'avec 50% de puissance installée, on produit 75% de l'électricité, et qu'à contrario, avec 8,5, 13%, là 14% de puissance installée, on produit à peine 5% de l'électricité en France à partir du solaire et du renouvelable. Alors, un petit historique, d'une certaine façon, sur la production d'électricité donc chez nous. Vous voyez sur ce graphique ce qui s'est passé. Dans les années 70-80, si on fait une coupe comme ça, plus de 50% de la production d'électricité était faite avec du fossile, charbon, pétrole et un peu gaz. C'est-à-dire que finalement, on était à cette époque-là à peu près comme le reste du monde. Et puis le nucléaire, ben, il nous a permis de faire à la fois de la substitution, c'est-à-dire qu'on a remplacé le thermique fossile par le nucléaire, mais il a aussi permis de satisfaire la croissance de la consommation. Et c'est important de se souvenir de ça, parce qu'en même temps, c'est ça qui a permis de financer le programme nucléaire. C'est la substitution, donc les économies d'importation et puis la croissance de la consommation qui dégageait évidemment un certain nombre de ressources. Et puis on voit apparaître là-haut le solaire, l'éolien et les différents renouvelables encore faibles. Justement, je parlais de facture énergétique. Voilà en gros la facture énergétique de la France au fil du temps. Rapporté, alors il faut, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs trucs, mais en milliards courants, c'est le bleu, et rapporté à des euros de 2012, hein, alors en l'occurrence sur ce graphique, bah, vous voyez qu'on avait une facture considérable à cette époque, mais qui revient à peu près à des valeurs importantes ramenées à ces unités-là aujourd'hui. On est presque équivalent, mais c'est la croissance des secteurs transport et autres usages thermiques. Si on regarde ça par source, bah, c'est le pétrole, donc c'est le secteur des transports pour l'essentiel qui est la cause de cette facture de l'ordre de 60 milliards d'euros chaque année. Et puis juste pour mémoire, donc c'est, vous voyez, l'essentiel, là, gaz et pétrole et électricité. Et si on n'avait pas fait la substitution par du nucléaire, bah, en gros, on aurait doublé la facture si on devait le faire avec du pétrole et du charbon. Alors, l'éolien chez nous, en France. Donc, il y a une puissance installée qui commence à être un peu significative, puisque vous voyez qu'on est sur l'ordre d'une puissance installée d'à peu près 10 000 MW actuellement, ce qui est pas rien. Et ce que vous voyez là sont justement les projections affichées par la PPE, donc la progression telle qu'elle est prévue et enclenchée d'une certaine façon. Donc ça devient significatif, mais malgré tout, ça donne une contribution en énergie qui reste encore modeste, hein, vous l'avez vu sur les courbes tout à l'heure. Et puis, ça reste modeste parce que finalement, on a un facteur de charge qui est faible, hein. Le facteur de charge moyen. Alors, facteur de charge, c'est pas de l'intermittent complet en tout ou rien, hein. C'est pas 100% ou zéro, hein. Mais selon la force du vent, ça produit 10, 15%, 0 ou 80% de la puissance théorique que ça peut diminuer, que ça peut délivrer. Mais vous voyez que le coefficient annuel moyen, c'est 23% en France actuellement. En été, c'est 17% seulement. En hiver, c'est un peu plus important. Il y a un peu plus de vent, etc. Et c'est ce que vous voyez illustré donc là sur les graphiques qui sont là. C'est des facteurs de charge faibles. Ça veut dire que tout le reste du temps, par rapport à la production théorique possible ou au maximum qu'on peut faire à un moment donné, il faut autre chose à côté pour compenser. On a le même genre de tableau ou de graphique pour le solaire, le photovoltaïque. La puissance est plus modeste, hein, puisqu'on doit être à 6 ou 7 gigawatts actuellement. 6, voilà. Là aussi, la prospective telle que prévue, inscrite dans la PPE, est volontariste, hein, puisqu'on est censé monter à de l'ordre de 15-20 gigawatts. Et par contre, les facteurs de charge, ils sont encore plus faibles. Et puis, surtout, en hiver, quand on en a besoin, on n'en a pas beaucoup. Ce qui vous montre qu'effectivement, on a une puissance installée croissante, même si elle est modeste, mais alors la production, elle est vraiment totalement marginale en termes d'efficacité globale. Mais bon, voilà. Quand vous cumulez les deux, 20, de l'ordre de 20 mégawatts ici prévus, et puis 25 à peu près, ça fait 45-50, on atteint presque la puissance du parc nucléaire actuel, hein, puisqu'on est plus très très loin, mais pour une production, évidemment, on va le voir après, qui reste nettement plus faible. Et je voulais juste illustrer cette variabilité ou ces faibles facteurs de charge, mais surtout la variabilité, par ces petits graphiques qui montrent la production renouvelable allemande. C'était en février 2012, c'était à peu près le moment du pic qu'on a vu tout à l'heure en France. Période froide dans toute l'Europe. Les Allemands qui ont des puissances installées en éolien et en photovoltaïque qui sont pratiquement plus du double des nôtres, puisque ça doit faire pratiquement 80 000 mégawatts, 80 gigawatts en cumulant les deux actuellement, plus que notre parc nucléaire total. Et avec ça, vous voyez que on a des variations considérables. Et entre la moyenne, là, si on regarde le vent, c'est le bleu, hein, très faible ces jours-là. Hein. Par contre, là, tout d'un coup, c'est monté à plus de 20 000 mégawatts de production éolienne en l'espace de quelques jours. Ce qui représente des variations considérables, hein, plus de 20 000, presque 20 000 mégawatts d'écart ce jour-là. Évidemment, non pilotable, sur lequel on n'a aucune action. Et là, normalement, on pourrait regarder ce qui se passe aujourd'hui en France, si on produit. Mais ça ne marche pas la connexion. Oui. Pour la petite histoire, voir effectivement quelle est la part et la variation des renouvelables, du solaire et du... Voilà, aujourd'hui, ce qui s'est passé et ce qui est prévu, et vous voyez que l'éolien, là, c'est de l'ordre de 900 mégawatts pour pratiquement 10 000 installés, hein, donc moins de 10%. Et puis le solaire, on voit une toute petite tache orange foncé là au milieu, ici, là, vous voyez, là, toute petite tache. Voilà, tout ça pour illustrer juste la réalité des choses en termes de contribution. Bon, on est aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas sur des pics très très élevés, mais quand même, consommation relativement importante, il ne fait pas très chaud. Et le nucléaire, ben, il continue à faire tout. Mais vous voyez qu'on sollicite quand même beaucoup l'hydraulique, le gaz, et puis un certain nombre d'importations, parce qu'il y a quelques difficultés. Bon, je crois qu'on va revenir au transparent, voilà. Alors, voilà, qu'est-ce qui peut se passer à partir de maintenant? Vers quoi est-ce qu'on peut imaginer qu'on va aller? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est issu de ce qu'on peut trouver justement au travers de la loi TECV, la PPE, donc la programmation des investissements, les bilans prévisionnels de RTE, puisque j'ai appelé le saint bon sens, c'est ma vision à moi des choses, le pragmatisme. Alors, en termes de consommation, ce qui est le plus vraisemblable, c'est une consommation qui va rester relativement stable et qui est en fait le résultat de deux mouvements contradictoires, une croissance de la consommation d'un certain nombre d'usages et en même temps une amélioration de l'efficacité énergétique dans de nombreux domaines et puis de réduction de consommation un peu dans l'absolu, volontariste, dans différents autres domaines. Comment est-ce qu'on va satisfaire tout ça? Ben, en premier lieu, avec de l'hydraulique, parce que ça coûte rien, une fois que c'est construit. Malheureusement, le potentiel hydraulique chez nous, il est à peu près saturé, et bon an, mal an, ben, la production, elle sera à peu près ce qu'elle était aujourd'hui. On a vu tout à l'heure, au travers de la PPE, que la puissance installée et la production du solaire et de l'éolien devraient en gros doubler à un horizon 2020 quelque chose. Donc c'est ce que j'ai représenté là. C'est effectivement doublé sur le dessin, ça n'a pas l'air, mais c'est à peu près doublé. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de place là-dedans. Le gaz, charbon et autres fossiles, ben comme on ne veut pas augmenter les productions de CO2, en gros, il devrait rester à peu près la même chose. Il devrait augmenter un petit peu quand même, parce que ça reste un des moyens de réguler l'intermittence ou la variabilité de l'éolien. Là, je ne l'ai pas beaucoup fait grimper sur le dessin, conformément aux objectifs qui sont affichés de ne pas augmenter la production de CO2 au travers de la production d'électricité. Ben, ça laisse tout ça pour faire du nucléaire, qui donc, logiquement, devrait rester à peu près au niveau où il est aujourd'hui en termes de production. Si on veut boucler les équilibres. Alors évidemment, il y a quand même des choix qui sont faits ou des choix politiques qui sont faits derrière tout ça. Et la loi TECV, ben, elle affiche une réduction du nucléaire à 50% de l'ensemble. Bon, la forme du dessin, c'est à main levée, c'est arbitraire, mais ça pourrait être une idée de ce qui peut se passer si on applique vraiment ça. Ce qui veut dire que, si ça marche, oui, voilà, ça marche, le gaz, bah, il va augmenter un petit peu parce qu'il faut bien boucher un peu les trous. Et puis le solaire et l'éolien, il faudrait l'augmenter considérablement, mais on est incapable en fait de l'augmenter de façon aussi importante que ce qu'il faudrait. Donc il reste un trou important, et ça veut dire que on n'est pas capable de satisfaire une consommation qui ne soit pas globalement décroissante. Et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs dans les ambitions ou les objectifs affichés dans les lois PPE, etc., une réduction de la consommation finale, alors que ça n'est que le terme de bouclage d'une certaine façon et pas du tout un objectif qu'il faudrait avoir. Alors, si ça marche... Justement, si on se positionne par rapport... Est-ce que ça marche, là ? Ouais, ça marche. Justement, alors, concernant le nucléaire, dans la PPE, il y a des orientations qui sont affichées. Il y en a deux, principalement. Enfin, il y en a d'autres, mais... c'est les deux qui nous intéressent le plus ici. Dans les orientations, la première, qui est en application du plafonnement à 63 gigawatts, abrogée par décret l'autorisation d'exploiter les réacteurs de Fessenheim. Pour l'instant, je n'ai pas vu de décret. Bon, c'est pas fini, il peut y en avoir un encore. Bon, puis la deuxième orientation, elle est intéressante parce que finalement, elle est assez mi-figue, mi-raisin. Elle est assez pragmatique d'une certaine façon, surtout quand on la lit avec l'alinéa suivant qui est là, qui est dans le texte et qui n'est pas dans les orientations affichées en encadré. Mais en gros, ça dit, dans les deux trucs, que le nucléaire, ça va être un peu le terme de bouclage pour remplir le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'en fait, la logique voudrait que ce soit la variante 1 de mon dessin, où ça reste tout droit, qui soit ce qu'il est possible de mettre en œuvre au titre de cette loi, puisque de cette PPE, puisqu'on dit on ne va pas prendre des décisions de fermeture qui remettraient en cause la sécurité d'approvisionnement, ni augmenter les émissions de CO2, donc on ne peut pas faire autre chose que du... Enfin, on ne peut pas faire de thermique classique. Il y a d'ailleurs dans la PPE des interdictions de construire toute centrale au charbon qui ne soit pas équipée de dispositifs de captage, de machin, de trucs. Donc ça revient à dire on n'en fait pas. Ni dégrader le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité industrielle. Avec une phrase comme ça... on est tranquille, on va prendre des bonnes décisions. Sauf que, il y a des bonnes âmes charitables qui ont réussi à faire inscrire dans le décret qui approuve la PPE, donc les 600 pages du document, dans lequel on trouve ce qu'il y avait au-dessus, ils ont réussi à rajouter un article qui est celui-là, et qui dit donc que EDF doit établir un plan stratégique compatible avec la réduction de la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2025. Dans les 6 mois, c'est-à-dire avant, c'est avril 2017. Bon, je ne sais pas qui va écrire ce plan stratégique, mais en gros, c'est là que je vous disais que tout ça, c'est un peu du en trompe-l'œil. C'est d'une certaine façon de l'enfumage. Là, en gros, on dit, faites un plan stratégique pour réaliser l'impossible. Bon. Ceci étant, on peut espérer, donc, comme pour d'autres, finalement, dispositions, qu'elles ne soient pas vraiment applicables, et que, entre-temps, on aura changé quelques dirigeants pour prendre des bonnes décisions. Ou remettre en cause les précédentes. Alors, ça marche comme ça. Ça marche pas, ça ? Bon, tant pis, je vais revenir en arrière. C'est dans l'autre sens. Où est-ce que j'étais ? Voilà, on va passer à la suite. Alors, juste... Au-delà de ce paysage qui était très qualitatif maintenant, mais montre quand même les choix auxquels on va être confronté, juste quelques éléments de. Un peu quelques considérations économiques. Ce petit tableau, il montre les coûts de production d'électricité chez nous. Alors, c'est plutôt un tableau qui montre les coûts de production, j'allais dire, actuels. pas forcément futur, hein, mais actuel pour les installations existantes. Bon, juste, vous connaissez les ordres de grandeur. Le nucléaire, bah, c'est à peu près 50 centimes, 5 centimes du kilowattheure. Non, je me trompe toujours. Bon, allez, 50 euros du mégawattheure, ça sera plus facile. L'hydraulique, évidemment, quand les installations sont amorties, les barrages déjà anciens, ça coûte pas grand-chose. L'éolien terrestre, le prix qui est là, en fait, c'est le prix de rachat de l'électricité. Hein. C'est pas forcément stricto sensu les coûts de production. Pour l'éolien, c'est pareil. Pour le photovoltaïque, on retrouve les mêmes choses. Et puis, pour le thermique classique, on a des ordres de grandeur, là, pour bon, les différents projets. C'est mis pour les nouveaux projets, mais en fait, c'est plutôt pour l'existant, quand même. Si on parle coût d'investissement, prix donc du kilowatt installé, on a un tableau, là, qui est... Bon, les chiffres sont... Il y a des fourchettes assez larges pour la plupart, parce que, de toute façon, c'est extrêmement dépendant de tas de considérations. Mais ça vous donne quand même des ordres de grandeur. En même temps, les chiffres ne sont pas forcément comparables. Pour le nucléaire, là, j'ai mis entre 3 500 et 6 000 € du kilowatt installé. Ça dépend des conditions, d'un tas de considérations sur les durées de construction, enfin sur la technique d'abord, la technologie, mais aussi sur les durées de construction, sur les taux d'actualisation, sur les intérêts intercalaires, sur différents aspects. Juste à titre indicatif, 6 000 €, c'est un peu la valeur haute, c'est ce qu'on doit... à peu près trouver quand on prend les coûts de Flamanville 3, de Hinkley Point, ramenés au mégawatt, à peu de choses près. Mais c'est mis en œuvre dans des conditions, c'est pas des séries, c'est des constructions isolées, c'est un peu pour certains des têtes de série. Les objectifs sont plutôt, et EDF et Areva travaillent là-dessus, plutôt d'arriver à des coûts d'investissement de l'ordre de 4 500 à 5 000 € du mégawattheure. Bon, par comparaison, évidemment, les centrales à gaz, charbon aussi, mais surtout gaz, c'est beaucoup moins cher, beaucoup moins lourd en investissement. Bon, après, évidemment, les coûts de production, c'est autre chose. L'éolien, c'est pas extrêmement cher en investissement. L'éolien en mer, lui, il est sensiblement plus cher. Mais par contre, c'est pas la même chose qu'on construit. On construit déjà pas pour les mêmes durées. Donc, si on raisonne en construction sur de la durée, il faut répéter ça un certain nombre de fois dans l'histoire de la production. Et vous voyez que l'hydraulique, bon alors là c'est extrêmement variable hein, les coûts, mais par contre c'est des investissements qui sont faits pour 100 ans, voire plus, etc. Donc c'est un élément important parce que ça donne des idées du montant des investissements qu'il faut réaliser, donc des financements, mais c'est extrêmement difficile à comparer directement. Après on passe au coût de production. Alors là aussi, mes chiffres sont assez indicatifs parce que c'est aussi très variable. Et on trouve, vous voyez, par exemple, pour le nucléaire, ça varie de 50, qui est le coût que je mentionnais tout à l'heure, un peu le coût de production actuel, jusqu'à des choses qui peuvent atteindre la centaine d'euros. 90 livres et quelques garanties en Angleterre, ça fait 100 euros, hein, à peu de choses près. Normalement, on devrait être sur des coûts un petit peu plus faibles, en tout cas pour les séries mises dans de bonnes conditions. Mais vous voyez que, en termes d'ordre de grandeur, on est quand même... Si on ne regarde pas les détails des chiffres, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Ce qui veut dire que c'est pas C'est pas ça, c'est pas le coût nominal de production qui va être finalement faire partie des facteurs clés, des facteurs discriminants. Parce qu'en réalité, quand on parle de kilowattheure ici ou de mégawattheure produit, on parle pas de la même chose. Là et là, vous avez un kilowattheure garanti sur l'année. Là, vous avez le coût d'un kilowattheure que vous avez, en gros, un quart du temps. Et puis le reste du temps, vous ne l'avez pas. Donc, le prix, on ne peut pas directement les comparer. Il faudrait rajouter, j'allais dire au pire, quand on parle d'éolien, le coût des moyens thermiques qu'il faudrait mettre à côté pour compenser. Sauf que c'est pas purement additif comme ça. En fait, c'est le coût système, c'est le coût d'ensemble d'un système électrique qui marie les avantages et inconvénients de chaque production qu'il faudrait prendre en compte. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire parce que ça dépend des schémas de production détaillés et ça varie presque au jour le jour en fonction du mix. Mais donc, le coût réel, il est quelque part entre ça, qui est le coût brut de production d'un mégawattheure d'éolien ou de solaire, et le coût auquel on rajouterait le moyen de substitution dans sa totalité. C'est quelque part entre les deux. D'où la difficulté de faire des exercices prédictifs et de comparaison et encore plus de décision. Alors là, j'ai extrait ça d'une présentation de Jean Covici, qui est la traduction un peu chiffrée en termes d'investissement de tout ce qu'on vient de dire. Et il a fait deux trucs, hein, 100% nucléaire, 100% éolien. C'est un exercice un peu de style, mais c'est une autre façon de dire kilowattheure garanti. C'est-à-dire, si on doit faire toute la production avec de l'éolien, il faut mettre autre chose à côté pour le faire. Et donc, c'est ce qu'il a traduit là. Donc, en gros, pour produire des mégawattheures dans le schéma nucléaire, il faut ça. On a des facteurs de charge de l'ordre de 80-90%. La durée de vie des installations est de 60 ans. Il n'y a pas besoin de réseau, de renforcer spécialement les réseaux parce que ça passe et c'est correctement réparti. On n'a pas besoin de beaucoup de capacité de stockage parce que c'est ce qu'on vous montrait, on joue sur l'hydraulique, etc. Et puis il y a un peu de réglage que peuvent faire les centrales nucléaires. Et puis les coûts au kilowatt, lui, il était plutôt un peu en dessous de ce que j'ai affiché tout à l'heure, mais ça fait rien. Et pour l'éolien, les facteurs de charge, c'est ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. La durée de vie, c'est 20 à 30 ans, et non pas 60. Les réseaux, comme il faut faire des transferts, ou on vise à faire des transferts de zone à zone, et puis il faut renforcer tous les réseaux pour passer dans les deux sens aussi souvent. Ça coûte à peu près entre la moitié et une fois le coût des éoliennes elles-mêmes. Il faut beaucoup de stockage puisque ça ne marche pas tout le temps. Et donc si on fait le ratio total de tout ça, entre 10 et 20 fois le montant qu'il faut investir est entre 10 et 20 fois supérieur pour de l'éolien que pour du nucléaire. Ça montre simplement que c'est des solutions chères et compliquées derrière, vraiment si on veut les mettre en œuvre de façon tout à fait importante. Alors, on traduit ça, ou il traduisait ça autrement, en l'illustrant. Si vous avez 350 milliards dans la poche à investir, vous pouvez le faire de deux façons, comme en Allemagne, où sur la période ici, ils ont investi à peu près 350 milliards d'euros. Et vous voyez le... Oh là. Oh là, oh là, oh là. Je suis parti trop vite. Voilà. Sur cette période, et vous voyez le résultat en termes de grammes de CO2 par kilowattheure produit dans le pays. Pratiquement aucun effet. les mêmes ou presque 300 milliards investis en France dans le nucléaire. Pof, là, ça fait une variation efficace sur la production de CO2 globale hein, du pays. Bon, c'est juste ramener ça aux objectifs, aux enjeux de départ. Si on veut agir sur le CO2, ben, il faut faire certains choix plutôt que d'autres, à moyen constant. Donc juste, ça c'est pour illustrer ce qui se passe en Allemagne. Là vous avez donc les différentes sources de production d'électricité en France et puis en Allemagne. Vous voyez qu'en Allemagne, entre le charbon et le lignite, et puis le gaz et un peu le pétrole, on n'a pas du tout le même panorama. Le nucléaire qui est en décroissance progressive, il était très significatif, mais il apparaît en réduction. Par contre, tout ça, cette transition énergétique allemande, qui est, elle, motivée par ce choix politique d'arrêter le nucléaire et non pas par les vraies considérations qu'on évoquait sur la réduction du CO2 à l'échelle mondiale, ça produit ça déplace très clairement les équilibres hein, puisque tout ça va décroître et par contre ça croît fortement avec des nuances, mais ça produit pas du tout les effets souhaités en termes de pollution et de réduction donc des gaz à effet de serre. Et puis là, vous voyez, finalement, c'est la situation en Allemagne, c'est le même petit dessin que tout à l'heure pour la France, et donc on retrouve la part du fossile en puissance installée et qui produit effectivement la majorité de l'électricité. Le nucléaire, avec 6% actuellement qui subsiste, produit quand même 13% de l'électricité. Ça reste un bon rendement, si j'ose dire. Et par contre, avec presque 50% de renouvelables en puissance installée en Allemagne, ils ne produisent que 20%, un peu plus de 20%, 25% de l'électricité produite. Donc évidemment, une efficacité discutable, à la fois en termes de CO2, comme on le disait, mais aussi et surtout en termes de dépenses. Mais les Allemands sont riches. Ça, c'est le même dessin que tout à l'heure. Mais effectivement, l'obligation d'achat et le fait d'être obligé de prendre l'électricité des éoliennes et du solaire quand elle se produit, avec les puissances qu'ils ont, non seulement ça perturbe les réseaux, mais ça perturbe aussi les marchés, d'ailleurs avec des effets très paradoxaux, c'est-à-dire que l'Allemagne est devenue exportatrice d'électricité de façon sensible. Les jours où le solaire et l'éolien produisent en pagaille, les prix s'effondrent sur le marché parce qu'il y en a trop, on a même vu des prix négatifs. Et donc, les pays d'à côté, ils achètent. Et EDF, enfin la France, achète, y compris très significativement, même quand on n'en a pas vraiment besoin. Mais du coup, ça déplace les équilibres, c'est-à-dire qu'on arrête autre chose pendant ce temps-là, ça déplace la rentabilité des installations existantes, mais on achète. Par contre, quand je dis que c'est pas cher pour les clients, entre guillemets, sur le marché de gros. C'est très cher pour les opérateurs parce qu'ils sont obligés d'acheter cette électricité au tarif garanti. Alors, c'est pas les mêmes que chez nous, mais au tarif garanti. Et donc, les opérateurs allemands, ils vendent de l'électricité quasi gratuite, mais ils la payent très cher. C'est pas très bon pour leur compte et ils en souffrent beaucoup. Alors, il y a des mécanismes compensatoires comme chez nous, mais c'est pas toujours très efficace. Et pour illustrer ça, en France, vous avez l'obligation d'achat qui est compensée. Alors, l'obligation d'achat, c'est EDF qui doit acheter l'électricité produite par les éoliennes et le solaire, etc. aux tarifs fixés par les autorités. Et on la revend, bah, évidemment, aux tarifs, aux différents tarifs. La différence entre ça, c'est censé être compensé, puisque c'est une mission de service public, c'est censé être compensé par l'État vis-à-vis d'EDF. Et donc ça se fait au travers de la taxe que vous avez sur vos factures, qui s'appelle la CSPE, entre autres, et donc vous avez la structure, enfin la, oui, la structure ici, la part dans le prix. Ici, vous avez donc en gros les prix de tarif, et puis vous avez bah, les taxes, tout ça c'est les taxes, dont la TVA, mais aussi surtout la CSPE qui est donc chargée de compenser, entre autres, les obligations d'achat. Pas que, mais c'est la grosse partie. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Et vous voyez ici l'augmentation à la fois passée et prévisible de cette charge de rachat des énergies éoliennes liée notamment à l'augmentation de puissance et de production que j'évoquais tout à l'heure. C'est compensé par une cette taxe, c'est la courbe bleue, c'est les montants effectifs de la taxe en question. Et puis la CRE, la Commission de régulation de l'électricité, enfin de l'énergie, pardon, elle détermine également ce que devrait être cette contribution dans l'absolu, indépendamment de la valeur fixée par le gouvernement. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un écart qui aujourd'hui est de l'ordre de 6 euros du mégawattheure sur les factures. C'est-à-dire qu'il y a un déficit, en quelque sorte, de 30 milliards d'euros chaque année. Alors, c'est une créance d'EDF sur l'État, mais ce n'est pas une vraie créance, puisque ça n'a aucune existence dès lors. Ce n'est pas une facture. Hein. C'est un joli trou. Ça montre d'ailleurs que, simplement, la facture devrait être encore plus élevée pour payer tous les choix que j'ai affichés tout à l'heure dans la PPE en question. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Faire un petit, peut-être juste un petit résumé. Globalement, il me semble que entre le pragmatisme de certaines dispositions et malgré les ambitions affichées de réduction et les contradictions qu'on peut trouver dans tous les documents, je pense que les besoins, on arrivera à les satisfaire dans le futur. Mais malgré tout, avec un système qui devient de plus en plus compliqué, de plus en plus complexe, il va reposer notamment sur quantité de mécanismes d'effacement qu'on est obligé de mettre en place, enfin que certains sont obligés de mettre en place pour compenser finalement toutes ces variabilités et ces impossibilités d'avoir de l'énergie. On est en train de réinventer d'ailleurs ce que s'appelait le chauffage électrique par accumulation, où on pouvait accumuler l'énergie de la nuit quand il n'y en avait pas. Maintenant, on fait ça avec les chambres frigorifiques, par exemple. Les gros industriels frigorifiques, on leur demande, et on les paye pour ça d'ailleurs, on leur demande de refroidir leurs chambres à moins 35 au lieu de moins 25, par exemple, pendant que les périodes où l'électricité est abondante et pas chère, et puis de couper leurs installations quand les consommations sont importantes ou que l'électricité est chère. Et avec l'inertie thermique qu'ils ont, ça passe. Enfin, ça passe pour des puissances significatives, mais ça passe sur plusieurs heures, les inerties de ces chambres-là. Donc c'est l'inverse du chauffage par accumulation, on réinvente ça, mais il va falloir faire ça à peu près partout, dans tous les domaines, et donc réguler, inventer un système de régulation beaucoup plus complexe, beaucoup plus fin, mais beaucoup plus complexe pour que ça marche. Malgré tout, plus on met de renouvelables intermittents, s'il n'y a pas une vraie régulation, et qu'on les fait contribuer aux équilibres réseau, le risque de panne, il augmente mécaniquement. Surtout si c'est à l'échelle européenne, globalement. dans tout ça, réduire donc significativement, mais surtout, ce n'est pas tellement le fait de réduire, c'est le fait de le faire trop tôt, avant la fin de vie des installations, c'est de la pure destruction de valeur si on arrête les centrales avant qu'elles aient atteint leur fin de vie réelle, technique et économique. Ça nécessiterait, et c'est un peu ce qu'on faisait apparaître dans les dessins, ça nécessiterait évidemment des investissements majeurs, mais sans aucun bénéfice pour le climat et avec que des inconvénients en termes de pouvoir d'achat global du pays. On n'est quand même pas dans une situation où on a énormément de réserves qu'on peut dépenser comme nos amis allemands, dont l'excédent commercial atteint entre 250 et 300 milliards d'euros chaque année. Nous, on est à la moitié, mais dans l'autre sens. Vous avez vu, évidemment, tous ces choix énergétiques sont des enjeux politiques majeurs, avec plein d'implications dans différents domaines. Il importe donc qu'ils soient, évidemment, tout à fait objectivés, conscients et éclairés, ce qui reste un sacré challenge pour nos futurs dirigeants, mais il ne faut pas désespérer. Et il faut continuer à les briefer, à leur montrer où sont les bonnes choses, et aux Français, parce que ils fonctionnent aussi en fonction de la perception publique.
Merci beaucoup. Vous avez tout compris. Je fais une interro. Vous pouvez poser des questions ? Oui ? Qu'est-ce que tu veux ? Vas-y.
Pour le nucléaire,
oui.
Donc tout ce que vous nous avez dit, il y a quand même présente un inconvénient majeur, c'est le problème des déchets. Et ce problème des déchets, il y a une étude qui a été engagée depuis une bonne dizaine d'années au centre de Aix-en-Provence, à côté de à Cadarache. On n'a absolument aucune nouvelle de... cette étude consistait à recycler les déchets nucléaires. Alors, c'était évidemment... Ça pouvait disparaître. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de cette étude, ou bien est-ce que...
Alors, je suis pas sûr de savoir précisément de quelle étude il s'agit. D'autre part, je pense qu'on parle là des déchets dits de haute activité, donc en fait les déchets issus du combustible usé et de son retraitement éventuel. Et que, en fait, ce dont on parle, c'est l'incinération des déchets dans les réacteurs spécialisés, rapides ou autres, etc. C'est des choses qui sont faisables. Est-ce que pour autant, ça présente un intérêt réel ? En faisant ça, on ne supprime pas totalement la question des déchets, on en réduit significativement les nuisances, pas forcément, on en réduit les quantités de façon importante. Mais on ne change pas la nature du problème, il faut toujours un stockage ultime, in fine, pour une partie où...
À long terme, c'est quand même un inconvénient majeur.
C'est un inconvénient majeur si on dit qu'on ne sait pas stocker les déchets dans des conditions raisonnables. Or, techniquement, on sait faire. Les solutions qui sont... ça met du temps, mais qui vont être mises en œuvre ou qui devraient être mises en œuvre d'enfouissement profond des déchets après conditionnement, etc.
À court terme, c'est valable. Mais à très long terme...
Non, l'enfouissement, c'est de la solution à long terme.
C'est des couches qui sont stables sur une échelle d'un milliard d'années. Le gisement de Bure, les couches.
Oui. Les couches géologiques.
Les couches géologiques sont stables depuis plus d'un milliard d'années.
Et donc, en fait, c'est pas un problème technique à proprement parler, parce qu'en plus, les volumes sont pas gigantesques, même sans la réduction due à l'utilisation d'incinération, etc. Les volumes sont pas gigantesques. Si on les compare à tous les déchets industriels qu'on doit traiter ou stocker par ailleurs. Mais donc c'est une question effectivement de perception du risque de résurgence de produits radioactifs dans la durée, dont effectivement on s'est montré avec toutes les études qui sont faites qu'il n'y a pas de diffusion, que les doses qui pourraient ressortir sont parfaitement négligeables sur toutes les durées géologiques considérées. Pour autant, c'est de la physique. On ne sait jamais prouver à 100% que quelque chose est impossible. On ne peut pas le prouver. Et donc, c'est une question derrière de perception. D'opinion, mais techniquement, on sait parfaitement faire du stockage de long terme pour traiter les quantités de déchets auxquels on a à faire face. Non, le vrai inconvénient du nucléaire, technique, il n'est pas celui-là. Il est que ça reste un moyen très compliqué de faire bouillir de l'eau et de fabriquer de la vapeur, qu'on le veuille ou non. Et que... c'est compliqué, on y met de plus en plus de règles de conception, de règles de sécurité, etc. Surtout dans nos pays, ou dans le nôtre. Et que, en réalité, on va aboutir à ce que ça soit plus économique de faire ça. Pour autant, ça ne nous donne pas la solution à côté. Et le vrai risque, donc, il est celui-là qui serait surmontable le jour où on saura stocker de l'électricité de façon industrielle, alors sur des durées, des quantités importantes et des durées relativement longues. Ce jour-là, oui, on change complètement la donne. Sauf que, un, on ne sait pas faire. Le seul vrai stockage de masse important qu'on sait faire, c'est les STEP, les stations de pompage hydraulique. Sauf qu'on peut en faire un certain nombre, mais on ne peut pas non plus en faire des tonnes, en tout cas chez nous. Alors il y a des idées.
Et puis ça tient une journée, un STEP.
Oui, mais on pourrait en imaginer des plus grandes. Des
oui,
plus
oui
grandes
mais
que
enfin,
ça.
Bon, ça se joue en.
Mais après.
Les ordres de grandeur, c'est. Oui. La journée ou
mais
quelques
après,
journées.
On rentre sur des considérations de coûts. Est-ce qu'on saura faire un jour des stockages de grande capacité, de relativement longue durée, à des coûts d'investissement qui soient finançables? Or, ça n'en prend pas le chemin. Mais le vrai risque, il est là, technologique.
De l'étude de Cadarache.
Enfin... Mais non, il fait pas disparaître
non,
le
il
stockage.
Il fait pas disparaître le stockage. Il diminue les
il
volumes
diminue les quantités,
des éléments à très haute activité.
Il coûte et ça peut être une solution qui a du sens. Le jour où on sait faire des réacteurs, alors rapides pour faire simple, qui puissent incinérer une partie, enfin consommer une partie des déchets. À des coûts raisonnables, qui soient moins chers que
le
stockage et etc. Pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait.
Bon, écoute.
Sensiblement. L'intérêt de l'étude n'est pas nul. C'est un élément de décision. Sauf que ça ne donne pas pour l'instant des conditions qui le rendent pertinent sur l'ensemble du schéma.
Guy, je vais penser à toi, je vais te mettre le lien sur une conférence qu'on a eue ici même il y a 3 ans, qui est le projet CIGEO, qui est venu et qui expliquait tout ça par le menu détail et par les gens qui s'en occupent
pour le stockage.
Donc, on a tout ce qu'il faut dans nos archives pour en parler d'une façon intelligente. Alors, si c'était le professeur Jacques Fauss qui était là, qui lui a travaillé toute sa vie, et il sort d'ici, et il était là au mois de décembre, et il est charmant. Et alors lui, c'est un chaud partisan, parce qu'il a travaillé toute sa vie là-dessus, sur les transmutations, des actinides, des produits de fission.
Mais c'est comme encore une fois comme le stockage.
On n'épuisera pas le sujet.
On saurait faire des incinérateurs. Mais si c'est pour dépenser des milliards pour un résultat sans
je
intérêt.
Je vous propose qu'on. Il veut poser une autre question.
Ce fameux photovoltaïque sur route, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sérieux? C'est que c'est
les routes.
Oui, sur les routes.
Pourquoi pas? Mais ça.
Oui,
mais ça change pas la problématique qu'on évoquait.
La nuit, il n'y a pas de courant.
Les routes, elles n'ont pas plus de soleil que les panneaux au sol. Non.
Ce qui était intéressant, c'était, je crois, la surface.
Oui. Bah,
ce qui est intéressant, c'est qu'on ne neutralise pas des surfaces qui peuvent être utiles pour autre chose.
Non, vous savez, quand vous allez en Allemagne, c'est quand même impressionnant. On a fait un voyage touristique, c'était pas du tout pour ça, culturel et touristique, il y a 2 ans, 3 ans, à peu près comme ça. On a tous été frappés, et c'était en bus, par le nombre de champs d'éoliennes sur des terres agricoles en Bavière qui étaient manifestement fertiles.
Les éoliennes.
De panneaux solaires, oui. Oui, panneaux solaires.
Les éoliennes, elles prennent du terrain, elles encombrent le paysage, mais elles neutralisent pas trop les...
Non, c'était les j'ai fait un lapsus, là, c'était des panneaux solaires.
Encore que, c'est pas tout à fait libre, par contre, les champs de photovoltaïque, ça prend des grandes surfaces.
Bon, je vous propose...
Ce soir, il va dire quelque chose.
Vous avez vu l'article du truc. Il va y avoir des pressions fortes, y compris réglementaires, sur EDF pour qu'ils prennent des dispositions stratégiques qui vont dans le sens de ce qui a été dit. Alors maintenant, tout ce que moi j'espère, c'est que ça ne sera pas des dispositions irréversibles. Mais il faut faire attention, parce que l'histoire de Creys-Malville montre quand même que si on arrête une installation pendant quelque temps, 2 ans en l'occurrence, si elle ne produit pas pendant 2 ans, son décret tombe d'office. Et il faut recommencer toutes les procédures réglementaires. Donc ça revient à dire qu'on l'arrête, indépendamment de toute décision de mise à l'arrêt au sens formel. Donc, je veux dire, les décisions, à mon avis stupides, mais les décisions politiques, elles peuvent avoir des impacts qui vont bien au-delà du fait de dire on enclenche un truc et on peut revenir en arrière. C'est lourd de sens, quand même. Alors maintenant, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer. On verra bien.
Une dernière question.
Mais il est clair que si on fait ça, encore une fois, c'est de la pure destruction de valeur. Oui, c'est de la pure destruction de valeur. Aucun bénéfice, dans aucun domaine, et on n'est pas si riche que ça.
Jean-Paul Coulon. Je voulais vous poser une question. Vous avez fait un exposé très intéressant sur une comparaison entre la stratégie de l'Allemagne et la stratégie de la France. Est-ce qu'au plan européen, quelle est la locomotive? Est-ce que l'Europe s'inspirera de la stratégie allemande ou française? Est-ce qu'il y a un cap qui est défini au niveau européen ou malgré tout, on échange des gigawattheures d'un pays à l'autre, entre l'Espagne, la France, l'Allemagne, etc.
Alors, vous l'avez compris, la stratégie allemande, elle n'était pas de réduire le CO2. Elle n'était pas pro-climat, enfin, elle n'était pas motivée par ça. Elle était motivée essentiellement par l'arrêt du nucléaire sur une certaine durée. Donc déjà, l'objectif même de départ est complètement différent. L'Europe, elle a, à ma connaissance, pas d'objectif d'arrêter le nucléaire. À supposer qu'il y ait une politique énergétique européenne. Il n'y en a pas. Mais il n'y a pas cette volonté exprimée d'arrêter le nucléaire. Ils sont, à contrario, il n'y a pas non plus d'expression en disant « il faut faire du nucléaire ». Ils sont, j'allais dire, assez muets sur le sujet en termes de stratégie. Ce qui laisse à chacun la responsabilité de faire ce qu'il pense devoir faire. Par contre, ils affichent des objectifs et des incitations en termes de pourcentage de renouvelables dans les différents secteurs, domaines, etc. Alors après, si on mixe tout ça, on peut en déduire des choses, mais je ne crois pas qu'il y ait de... Enfin, d'abord, il n'y a pas de politique stricto sensu, de stratégie unique, et donc c'est pas de ce côté-là, en tout cas pour l'instant, que ça pourrait apparaître. Maintenant, dire qui est la locomotive et qui est le moteur dans tout ça, en fait, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Chacun tire dans sa direction en fonction de ce qu'il considère être ses intérêts ou son contexte décisionnel. Mais bon, les Allemands, ils ont pris cette voie-là. Après Fukushima. Mais en même temps, il faut se rappeler que se souvenir que la décision de sortir du nucléaire, elle est antérieure à ça pour des raisons diverses. Alors elle a subi des fluctuations, mais elle est antérieure à ça. Et en même temps, donc ils sont orientés vers une politique éolien solaire absolument massif, hein, 85 gigawatts de puissance installée actuellement. Ça leur a coûté et ça leur coûte encore la peau des fesses. Simplement, ils ont les moyens.
Si on s'appuie sur votre analyse, ils n'y arriveront pas.
À quoi faire ?
À satisfaire leurs besoins, qui sont
si. Si,
avec du charbon.
Si, mais avec du charbon, de lignite, du pétrole, etc. Mais ils n'ont pas l'objectif, enfin, c'est pas leur objectif premier de réduire le CO2. J'allais dire, actuellement, quand on regarde ce qui se passe, ils ont construit, alors je sais pas détailler, mais la carte que je montrais, elle faisait apparaître toutes les nouvelles centrales au charbon, etc. La production charbon, elle n'a pas considérablement augmenté en valeur absolue. Le résultat global, c'est que la production de CO2, elle augmente un petit peu, mais pas beaucoup. Pour faire simple, ils ont quand même, on peut dire, compensé la baisse du nucléaire par plus de renouvelables, avec un moyen de régulation de l'équilibre entre les deux, parce que ça ne produit pas en même temps, qui est le charbon et le lignite et le gaz. C'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup plus le charbon et lignite, mais moins longtemps dans la durée, puisque ça vient compenser le... en fait, quand on essaie de décortiquer ce qui se passe en Allemagne, c'est extrêmement compliqué, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, de perturbation complète des marchés. Et encore une fois, avec ce qui peut apparaître complètement paradoxal, c'est qu'ils sont devenus exportateurs d'électricité à un certain nombre de moments. Alors, c'est exportateur en mégawatts. Je n'ai pas accès au contrat, donc je ne suis pas sûr que ce soit exportateur en euros.
Ben oui, puisqu'il le donne ou il paye le client pour l'acheter, quoi. Finalement, ça revient à ça.
Donc, voilà.
C'est le prix négatif. Bon, on va vous remercier de votre intervention. Merci d'avoir accepté notre invitation. et encore une fois avec la clarté de votre exposé que vous pourrez réviser dans le poste, et je vous ferai une interrogation écrite la semaine prochaine. Voilà.